La carte Visa Orange Monnaie, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, comme tous les jours, RFI vous donne la parole. Dans 30 minutes, vous pourrez commenter l'actualité de votre choix. Vous le savez, nous sommes vendredi, c'est la Libre Antenne. Vous nous interpellez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine. Tous les sujets nous intéressent, donc rejoignez-nous. Venez lancer le débat en direct au 33 9 693 693 70. Vous réagissez également sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, le compte WhatsApp d'appel sur l'actualité. Je le rappelle, tous les vendredis, mais c'est important, la Libre Antenne, c'est aussi l'occasion de nous interpeller sur des sujets qui ne font pas forcément la une de la presse internationale, des sujets dont on n'a pas parlé cette semaine dans l'émission, donc voilà, c'est vraiment la Libre Antenne. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, votre rendez-vous privilégié avec la rédaction des RFI, vous nous appelez, vous nous posez vos questions et nos experts ici à Paris, nos correspondants vous répondent en direct. Et pour commencer, des questions sur la Libye après la découverte de missiles appartenant à la France. Bonjour Joachim.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Vous êtes à Kinshasa, nous vous écoutons.
Oui, le gouvernement français vient de confirmer la découverte des missiles anti-chars appartenant à la France sur une base Proactor en Libye, en violation de l'embargo décrété par l'ONU. Comment la France explique-t-elle la tenue de ces munitions par les forces Haftar ? Cette découverte expose-t-elle la France à des sanctions internationales ?
C'est vrai que les autorités françaises ont confirmé l'information dévoilée il y a quelques jours par le quotidien américain le New York Times. Les missiles découverts dans un QG du maréchal Haftar près de Tripoli appartiennent bien à l'armée française. Bonjour Houda Ibrahim.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Rappelons que nous parlons de 4 missiles anti-chars que l'armée française a achetés aux États-Unis. Ils ont été découverts par les forces loyales au gouvernement d'Union nationale à la fin du mois de juin, sur une base qui a été reprise au maréchal Haftar. Et effectivement, la question que tout le monde se pose, c'est que faisaient ces missiles appartenant à l'armée française dans cette base ? Comment la France s'explique-t-elle ?
Elle s'explique comme elle peut. En France, d'abord, c'est le ministère des Armées qui s'exprime sur la question et non pas le ministère des Affaires étrangères qui a refusé de répondre à la question quand un journaliste le lui a posé. Selon ce ministère des Armées, ces armes étaient destinées à l'autoprotection d'un détachement français déployé à des fins de renseignements contre le terrorisme en Libye. Paris se défend en affirmant que ces armes sont endommagées et hors d'usage, même si des militaires libyens sur le terrain affirment le contraire. La France se défend aussi en disant que ces missiles ont été stockés en vue de leur destruction, qu'elles n'ont pas été transférées à des forces locales, donc à Khalifa Haftar, mais pour la défense de ses agents de renseignement. Mais ici, j'ajoute une remarque très importante. Les Libyens, c'est-à-dire le GNA, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli,
qui est le gouvernement reconnu par la communauté internationale, par l'ONU,
semble vouloir temporiser cette affaire actuellement, alors que ce gouvernement avait dénoncé d'une manière très ferme la présence des Français à Rayan il y a quelques mois. Ce gouvernement garde le silence. Aucune réaction officielle à Tripoli depuis 3 jours concernant cette affaire. Pour rappel, la France a repris tout récemment la coopération avec le ministère de l'Intérieur. On en a parlé ici même, en Libye, pour former des cadres dans le domaine de la sécurité. Selon nos informations, des contrats importants dans le domaine de l'énergie entre les parties sont en négociation.
Alors la question de Joachim est quand même très pertinente concernant d'éventuelles sanctions internationales à l'égard de la France. Peut-on dire que la France a violé l'embargo sur les armes qui est en vigueur en Libye depuis 2011 ?
C'est une question qui se pose. Eh bien, la France, pour se justifier, a été obligée de révéler une chose qu'elle avait niée à plusieurs reprises par le passé jusqu'à maintenant. La présence d'une unité de renseignement à Rayan, dans la montagne de Nafousa, à l'ouest de la Libye. Une ville stratégique près de Tripoli, comme tu l'as dit. Dans le passé, en 2016, la France a reconnu sa présence à Benghazi auprès de Khalifa Haftar après la mort de 3 soldats français. La France, en envoyant ces missiles, Elle viole certainement l'embargo, mais plusieurs autres pays l'ont violé aussi. Cet embargo imposé par les Nations Unies sur la Libye en 2011, à la tête de ces pays, il y a la Turquie qui n'a cessé d'envoyer des véhicules militaires, des drones et toutes sortes d'armes légères et des munitions en Libye.
La Turquie qui le revendique, hein, qui assume clairement ses livraisons d'armes. Et puis il y a d'autres pays aussi qui livrent des armes.
Hein. Il y a aussi une présence militaire de l'Italie, de l'Africom, des renseignements britanniques, mais des armes qui viennent également de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Alors c'est souvent au nom de combats contre le terrorisme ou pour des aides humanitaires, comme tout simplement l'hôpital militaire à Misrata, cet hôpital italien. Des sanctions internationales contre ces interventions, il n'y en aura pas malheureusement, parce que l'ONU et les conseils de sécurité montrent son impuissance face à la situation libyenne. L'ONU qui a mis la Libye sous son mandat et qui n'arrive pas à gérer la crise dans ce pays.
L'ONU, Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est d'ailleurs divisé, hein, clairement, s'agissant de la situation en Libye. Merci beaucoup, Ouda Ibrahim. Souhaitez-vous peut-être commenter la découverte de ces missiles appartenant à la France? Vous êtes les bienvenus. RFI vous donnera la parole dans une vingtaine de minutes. 33 9 693 693 70. Bonjour, Guilhem Delteil.
Bonjour Juan.
Correspondant permanent de RFI à Jérusalem, nous vous avons contacté ce matin car Emmanuel, à Goma, a des questions à vous poser. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI, en particulier ceux de la RDC.
Oui, République démocratique du Congo, nous vous écoutons.
Voilà, ok. Effectivement, le tribunal de Jérusalem a jugé l'autorité palestinienne et l'Organisation pour la libération de la Palestine comme responsable des 17 attaques lors de la seconde intifada. Ce qui m'amène à poser des petites questions. Premièrement, j'aimerais savoir comment la Cour a-t-elle mené les investigations pour lier ces attaques à l'autorité palestinienne et à l'OLP.
Alors on va déjà, si vous le permettez Emmanuel, répondre à cette première question. Guilhem Delteil, on rappelle que la justice a été saisie par des dizaines de familles israéliennes, des familles de victimes. Ce verdict est tombé en début de semaine. Comment le juge israélien justifie-t-il sa décision ?
Eh bien, Juan, Emmanuel, le magistrat s'est en fait appuyé avant tout sur des déclarations des responsables palestiniens. Les actuels, comme les anciens responsables, il cite nommément, par exemple, Mahmoud Abbas, l'actuel président de l'autorité palestinienne, qui est aussi le chef de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, mais aussi son prédécesseur, Yasser Arafat, qui dirigeait ces deux structures, lui, au début de la deuxième intifada, au début des années 2000, ainsi que Marwan Barghouti, qui est l'un des cadres du Fatah, le parti président aujourd'hui condamné à la prison à perpétuité en Israël pour son rôle aussi durant cette intifada. Alors tous les trois, ainsi que l'OLP et l'autorité palestinienne en tant qu'institution, n'avaient qu'un seul but qui était de tuer des juifs, des israéliens et nuire à l'état d'Israël, écrit le magistrat dans son jugement. Par ailleurs, le juge s'appuie aussi sur une pratique controversée de l'autorité palestinienne, le paiement de pensions aux familles des assaillants. Pour les dirigeants palestiniens, les auteurs de ces attaques sont des résistants et soutenir leur famille relève de la solidarité nationale. Mais pour les Israéliens, eh bien, ces assaillants sont des terroristes et ces pensions sont une incitation à la violence, tout comme le fait de baptiser des écoles, des places ou des rues du nom de certains assaillants. Alors, certaines de ces 17 attaques ont été revendiquées par le Hamas et le djihad islamique, deux mouvements palestiniens qui, eux, ne font pas partie de l'OLP. Mais cela n'empêche pas le juge d'estimer que l'OLP et l'autorité palestinienne portent une responsabilité idéologique dans ces 17 attaques, mais il juge aussi que ces deux structures ont aidé logistiquement, dans certains cas au moins, en fournissant des armes et un soutien financier.
Ouais, responsabilité de l'autorité palestinienne, de l'OLP, dans ces attaques menées dans le courant des années 2000. Vous aviez une autre question, Emmanuel, je vous ai un peu interrompu tout à l'heure.
Oui, en fait, je voudrais comprendre maintenant comment cette décision de justice peut-elle être appliquée dans la mesure où Il s'agit d'un tribunal israélien qui sanctionne le gouvernement palestinien.
Ouais. D'autant que cette décision ouvre la voie à une demande d'indemnisation de la part des familles des victimes. Si la justice israélienne tranche en ce sens, Guilhem Deltey, comment un tel jugement pourrait être appliqué pour contraindre l'autorité palestinienne et l'OLP à payer ?
Alors, il faut tout d'abord noter que ce jugement-là, il n'est pas encore définitif. Il peut être contesté devant une autre cour israélienne par l'autorité palestinienne et l'OLP. Et puis, effectivement, après, il faudra de toute façon un autre jugement pour condamner les deux structures à payer des dommages et des intérêts aux familles. Mais l'avocate de l'organisation qui a intenté cette procédure, elle ne cache pas son intention. Elle compte réclamer des compensations financières, en effet, et elle les estime, ces compensations, à 1 milliard de shekels, ce qui représente près de 250 millions d'euros. Une somme très conséquente en effet. Mais alors, c'est une question tout à fait juste de la part d'Emmanuel. Même si un tribunal condamne l'autorité palestinienne et l'OLP à verser cette somme, il sera en effet très difficile pour lui de faire appliquer cette décision. D'ailleurs, un jugement qui date de 2017, qui a déjà 2 ans, qui condamnait l'autorité palestinienne à payer 6 millions d'euros aux familles de 3 Israéliens tués par des Palestiniens n'a jamais été appliqué. Il faudrait en fait une action politique pour contraindre l'autorité palestinienne et l'OLP à verser ses compensations financières. Cette action politique nécessiterait donc une intervention de la part du gouvernement israélien qui n'a de son côté pas un intérêt non plus à affaiblir trop financièrement l'autorité palestinienne.
Affaire à suivre donc. Emmanuel, a-t-on répondu à vos questions ?
En tout cas, je suis satisfait par rapport aux réponses données par Guilhem. Merci beaucoup.
Guilhem Deltey, correspondant permanent de RFI à Jérusalem. Bonne journée à vous et bravo, merci Emmanuel. Bonne journée à Goma, en République démocratique du Congo. Comme promis, nous avons rappelé Marius d'Abidjan. Bonjour Marius.
Bonjour Monsieur Juan Gomez et bonjour à toute l'équipe.
Toutes nos excuses pour hier, faute de temps, vous n'avez pas pu poser vos questions, des questions sur ce Malien, Mohamed Alassane, qui depuis le début de la semaine est à la barre de la Cour pénale internationale.
Tout à fait. Mohamed Alassane, l'ancien commissaire de la police islamique au Mali, a été présenté à la CPI pour des crimes commis entre 2012 et 2013. Alors, je voulais savoir, M. Wan, pourquoi est-ce lui seul à avoir été présenté à la CPI ?
Mohamed Alassane, oui. Et que ?
Et que risque-t-il ?
Que risque-t-il ? Quelle peine risque-t-il, voilà. Effectivement ? En tout cas, les audiences de confirmation des charges se tiennent jusqu'à mardi prochain. Il va falloir attendre le mois de septembre pour savoir si oui ou non la CPI organisera le procès de Mohamed Alassane. Bonjour Karine Bonneau.
Bonjour.
Merci de vous rendre disponible une fois de plus pour répondre à Marius. Vous êtes responsable du bureau Justice internationale à la FIDH. Pourquoi est-il le seul à comparaître pour les crimes commis par les djihadistes en 2012-2013 lorsqu'ils occupaient la ville de Tombouctou ?
Alors c'est le seul à apparaître aujourd'hui devant la CPI, mais en fait c'est le deuxième inculpé pour les crimes qui ont été commis au nord du Mali. Puisqu'il y a 3 ans déjà, Al-Mahdi avait été condamné à 9 ans de prison après avoir plaidé coupable pour la destruction de mosquées et de mausolées à Tombouctou. Donc aujourd'hui, il s'agit d'une audience qui, par contre, porte sur des crimes beaucoup plus larges, qui reflètent vraiment l'ampleur des crimes dont s'est servi le groupe Ansadin pour affirmer son pouvoir sur la population et auquel appartient aujourd'hui Alassane. Donc des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et pour la première fois devant la CPI aussi, la persécution sur le genre.
Ouais.
Donc
enfin,
aujourd'hui, la
Karine
Cour
Bonneau,
a cité, en fait...
Il y a donc deux djihadistes devant la CPI. Certains peuvent se dire que c'est peu finalement.
Absolument. Et c'est bien ce qu'on dit aussi à la FIDH. Et on attend plus. Alors, on se réjouit d'un procès à venir, on espère, qui reflète vraiment d'autres crimes que ceux pour lesquels Al-Mahdi a été poursuivi. Mais on espère que ce procès sera un autre procès avant d'autres de personnes plus responsables, hiérarchiquement dans la perpétration des crimes au Mali, puis qui relancera aussi le processus au Mali, puisqu'aujourd'hui au Mali, les procédures sont complètement bloquées, après la libération aussi de Aliou Mohamed Touré, alors qu'il avait été condamné au Mali, il a été libéré sans base légale il y a quelques mois.
Donc à vous entendre, vous diriez que les auteurs présumés des crimes dans le nord du Mali bénéficient d'une certaine impunité.
Écoutez, il y a des efforts au niveau de la Cour pénale pour continuer les enquêtes, et donc on espère que ces enquêtes vont continuer et effectivement aboutir à d'autres criminels. Au Mali, pour l'instant, les procédures sont un peu un peu bloquée, mais peut-être aussi que ce genre de procès à la haie va relancer une dynamique au Mali, puisque ça va être pour l'instant, c'est une large impunité qui caractérise les crimes commis au nord du Mali.
Marius, voilà pour les explications de Karine Bonneau. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup, M. Wangoumé, M. Ebono, et puis bonne journée à vous.
Voilà, Karine Bonneau, responsable du bureau justice de la FIDH. 10h25 à Paris. On a le temps de prendre une dernière question, la dernière de la semaine. Bonjour, David.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Libreville, au Gabon, et vous avez des questions concernant Ursula von der Leyen, la présidente pour l'instant désignée de la Commission de l'Union européenne.
Oui, j'ai deux questions à ce sujet, Juan.
Oui.
Le Parlement européen doit prochainement valider la nomination d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission. Mais les eurodéputés de gauche sont contre sa nomination, car ils ne sont pas d'accord avec sa ligne politique. Quels sont les éléments sur lesquels ils divergent et quelles sont ses chances pour être confirmées par le Parlement?
Ouais, c'est vrai que le Parlement doit encore donner son feu vert. Le vote est prévu la semaine prochaine, théoriquement mardi. Anis Al-Jabri, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service international de RFI. David parlait à l'instant de la gauche européenne. Enfin, il y a la gauche, il y a les socialistes, il y a la gauche radicale, il y a les verts. Enfin, tous sont assez remontés face à cette candidature.
Alors, c'est assez différent. C'est-à-dire que la gauche radicale et les Verts ont annoncé immédiatement que ça serait non. Enfin, immédiatement, quasiment immédiatement.
Non, c'est-à-dire qu'ils ne voteront pas pour elle.
Ils voteront contre sa candidature. Chez les socialistes, j'ai eu le courrier en main hier soir. Le courrier qui a été envoyé à Ursula von der Leyen. C'est 4 pages, 4 thèmes, 2 points qui sont présentés comme des points clés sur lesquels, eh bien, sans réponse, les socialistes, ils le disent noir sur blanc, ne vont pas pouvoir voter pour Ursula von der Leyen. Et dans ce courrier, eh bien, je vous disais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets sensibles, notamment il y a la question de l'asile pour les migrants, où là, eh bien, ce sont vraiment des requêtes de gauche, hein, qui demandent davantage de sauvetage, davantage de fonds pour les migrants, un vrai système d'asile européen. Il y a aussi une autre demande qui est typiquement estampillée de gauche, qui est d'avoir un véritable budget de la zone euro. Et ça, eh bien, ça fait des années qu'on en parle et ça n'a jamais fonctionné. On a du mal à imaginer comment Ursula von der Leyen pourrait répondre là-dessus.
Surtout en 3-4 jours.
Surtout en quelques jours, je tiens quand même à le souligner, c'est la gauche qu'on entend le plus pour des raisons évidentes, puisqu'Ursula von der Leyen est de droite et c'est au PPE. On peut difficilement se prononcer très officiellement contre elle. Très honnêtement, elle a aussi de grosses difficultés au sein de ce parti, y compris dans sa propre famille politique, car la CDU, ses élus sont absolument furieux que ce soit elle. Mmh. Ils le sont parce qu'ils avaient leur propre candidat. Vous savez, ce terme allemand beaucoup utilisé, le Spitzenkandidat, c'est le chef de file qui s'est présenté devant les électeurs. Ils en avaient un, Manfred Weber. On sait que notamment Emmanuel Macron avait fait campagne contre lui. Et les eurodéputés, eux, jugent que c'est une forme de déni de démocratie. Alors, ils ont dit qu'ils seraient loyaux, mais on vote à bulletin secret à Strasbourg. Rien ne dit que dans les urnes, tout le monde sera loyal.
Oui, pour être élu, elle devra réunir la majorité absolue, soit 376 voix. Concrètement, à l'heure qu'il est, quelles sont ses chances?
Bon, elle a un potentiel à 444 voix si on additionne la totalité des votes du PPE, des socialistes et des libéraux centristes de Renew Europe. Donc, c'est vrai que s'il y a des réticences, une déperdition.
Enfin, les socialistes, j'ai cru comprendre qu'ils fixaient leurs conditions.
Alors, ils fixent leurs conditions. Bon, d'abord, ce courrier n'est pas public, même si, voilà, on est quelques-uns à avoir pu le lire. Il y a 2 possibilités, en réalité. Ce que disent les socialistes, c'est que Ursula von der Leyen ferait bien d'attendre un petit peu, de reporter sa candidature au mois de septembre. C'est déjà arrivé. C'est arrivé une seule fois, hein, sous Barroso, pour sa seconde commission qui est extrêmement contestée. Ça permettrait un peu aux esprits de se refroidir, d'être un peu moins échauffée. Ça lui permettrait aussi, elle, d'être un peu plus solide sur ses dossiers. Elle était désignée à la dernière minute. Tout le monde lui a reproché des auditions un petit peu filées d'eau tiède. Logique. Elle a eu peu de temps pour se préparer et puis proposer un peu tout et son contraire. C'est la première fois qu'on a un Parlement aussi fragmenté. C'est aussi très compliqué.
Donc vous nous disiez, elle peut compter sur le papier sur 400...
44 voix.
D'accord. Il lui en faut 376.
Voilà, il lui en manque 70. Mais si jamais les socialistes disaient non, ça serait une première. Mmh. Jamais un Parlement européen n'a refusé de confirmer un candidat présenté par les chefs d'État et de gouvernement. Ça pourrait être considéré comme une crise institutionnelle et puis tout le monde pointerait quand même qu'ils ont refusé la première femme à la tête de la Commission.
Le feuilleton n'est donc pas terminé. Merci à Anis Al-Jabri, bonne journée à David qui nous appelait de Libreville. On retrouve la rédaction pour la dernière édition d'Afrique Matin et on revient tout de suite après pour la Libre Antenne.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.